il faut prévoir pour les malades de l'hôpital de Jérusalem soit louer 4 médecins savants qui sachent connaître la qualité des urines et la diversité des maladies et puissent donc administrer les remèdes de la médecine. Témoignage d'un médecin à l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem le 15 mars 1181.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le Moyen-Âge a bien sûr connu ses pandémies. Et la période a fait un effort particulier, en particulier en ville, pour doter les cités d'hôpitaux susceptibles de recevoir les malades et tout particulièrement les plus pauvres. Ces hôpitaux, qui se développent à partir du XIIe siècle, étaient confiés pour le personnel, je dirais, de tous les jours, à des sœurs hospitalières qui étaient chargées d'assister les malades, aussi bien moralement, comme d'ailleurs souvent les statuts des hôpitaux le demandent, que dans les soins quotidiens, la toilette, l'alimentation ou la garde. Ainsi, ces sœurs étaient chargées de faire attention aux malades qui leur étaient confiés. Ces sœurs étaient souvent secondées pour les gros travaux de lessive, de nettoyage, de cuisine, par des valets et des servantes laïques. Mais évidemment, ces sœurs n'étaient pas chargées véritablement de s'occuper des maladies et des malades. Il y avait donc la question des médecins. Alors les médecins, au Moyen-Âge, évidemment, ont des moyens qui sont extrêmement différents qu'aujourd'hui, mais tout de même, ils sont reconnus comme des hommes de science. Et ils sont rétribués à l'acte. Chaque opération, chaque consultation est donc payée. Grâce aux archives, mais qui souvent sont incomplètes, on peut connaître le nombre de médecins, et dans leur diversité d'ailleurs, qui ont travaillé à des hôpitaux. Prenons par exemple l'Hôtel-Dieu de Paris. Entre 1221 et 1511, les archives permettent aux historiens de recenser 26 praticiens, 3 barbiers, 5 médecins, 18 chirurgiens, c'est-à-dire chargés de faire quelques opérations directes. De même, l'Hôtel-Dieu de Lille, qui a des archives extrêmement complètes pour la fin du XVe siècle et le début du XVIe. Eh bien, pour la période allant de 1467 à 1500, on dénombre 11 médecins et 9 chirurgiens. Donc il y avait effectivement des spécialistes qui travaillaient auprès de ces hôtels-dieu et qui devaient opérer. Les opérations pouvaient aller parfois de l'incision d'un abcès à enlever une tumeur très apparente et ça pouvait aller également jusqu'à la trépanation qui évidemment était un énorme risque pour le patient. D'autre part, à côté de ces médecins, il y a des sages-femmes, qu'on appelle au Moyen-Âge les ventrières, ou encore les matrones jurées, et qui sont souvent employées par les municipalités pour mettre au monde les bébés de personnes qui ont été accueillies dans les hôpitaux. Qu'est-ce que l'on demande à ces médecins ? Nous avons un document intéressant qui s'appelle le Livre de vie active de l'Hôtel-Dieu de Paris, qui a été rédigé en 1483 par Jean Henry, qui était lui-même chanoine de la cathédrale Notre-Dame. Et il parle du rôle des médecins, ce qu'il appelle les médecins de corps, c'est-à-dire qui sont chargés véritablement de s'occuper directement des opérations éventuelles vis-à-vis des malades. Or, Jean Henry nous précise que les médecins doivent diligemment connaître et considérer les conditions des malades en 5 matières. Il lui faut connaître l'ancienneté de la maladie, la gravité de la maladie, les causes de la maladie, son degré d'avancement. Et une fois qu'il a analysé tout ceci, il peut décider du type de médecine qui seront données aux malades, voire même éventuellement l'opération. Évidemment, le la question de la médecine au Moyen-Âge est tout de même extrêmement liée aussi aux faits religieux. Parce que, vous l'avez remarqué, les infirmières sont en fait des religieuses, et le lien religion-hôpitaux existe dès l'admission du malade. Toute personne entrant à l'hôpital devra faire sa confession et assister à une messe où il recevra la communion. Oui, parce que la confession permettait éventuellement de se préparer à une mort qui pouvait arriver, bien sûr, à l'hôpital. Au moment où il arrive à l'hôpital, que fait-on au malade, outre ces questions religieuses ? On lui lave la tête et les pieds. On lui coupe les ongles des mains et des pieds, ainsi d'ailleurs que les cheveux. Puis ensuite, les religieuses vont poursuivre par des soins corporels. Elles peuvent administrer dans des grandes baignoires un bain pour y baigner régulièrement les malades. On va laver les vêtements du patient qui lui seront rendus propres à la sortie, si évidemment il sort de l'hôpital. Et on demande, et c'est intéressant pour la période que nous traversons actuellement, de se laver régulièrement les mains, au moins avant les 3 repas de la journée. Quant aux grabataires qui ne peuvent pas se rendre aux toilettes, on leur fournit des pelles de terre qui servent en fait de bassin pour recevoir les besoins naturels des malades. Et les sœurs sont chargées de vider et nettoyer ces bassins. Autre élément important de l'accueil des malades dans les hôpitaux médiévaux, la nourriture. Elle est organisée selon un calendrier assez précis. Et les calendriers alimentaires que les archives médiévales nous permettent de connaître nous permettent de saisir l'élément alimentaire. Les vendredis et samedis sont toujours des jours maigres, essentiellement un peu de poisson, quelques légumes. Par contre, les dimanches, mardis et jeudis sont toujours des jours gras. Et le lundi et mercredi changent de statut selon les établissements hospitaliers. Alors les jours gras, qu'est-ce que cela signifie ? On consomme de la viande fraîche. Par ordre d'importance, le porc, le mouton, le bœuf, puis le veau. Mais également, on s'aperçoit dans les archives qu'il y a énormément de volailles qui sont utilisés pour la nourriture quotidienne, ainsi que du lard. Les jours maigres, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, on sert des œufs, du fromage, de la tarte, du poisson frais ou salé. Évidemment, le carême, dans ces pays de chrétienté, est extrêmement suivi. Les œufs que l'on donne hors du carême sont remplacés par des harengs, qui est un des éléments importants de la nourriture du Moyen-Âge. Concernant la boisson, on offre du vin, mais souvent coupé d'eau, ainsi qu'un pain qui est donné à tous les repas. Quant aux légumes, nos archives nous parlent d'herbes, en fait de salades, mais également de choux, de carottes, de cressons, d'oignons et de persil. Et certains hôpitaux font également attention à servir des fruits, cerises, fraises, prunes, pommes, raisins, figues et dattes. Donc vous le voyez, il y a tout de même une attention réelle aux malades, y compris aux pauvres, qui rentrent dans ces hôpitaux du Moyen-Âge. En fait, les hôpitaux du Moyen-Âge ne sont pas tant là pour soigner, parce que des fois certaines maladies étaient véritablement incurables selon les connaissances de la médecine de l'époque. Mais ils sont là pour finalement apaiser les souffrances, rassurer le patient et lui donner une nourriture dont des fois il ne bénéficie pas, évidemment, en dehors de l'hôpital. Ensuite, la question que se sont posées également les historiens, c'est que les hôpitaux ont peut-être pu servir à autre chose. D'abord, les hôpitaux sont souvent des constructions soit royales, soit municipales. Donc, c'est un élément de prestige pour une ville. Avoir un hôtel-dieu, c'est un symbole de la puissance de la cité qui est en mesure d'édifier les bâtiments accueillant ensuite les malades. Ensuite, il faut bien dire aussi que ces hôpitaux ont servi peut-être de soupape sociale. Je m'explique. En particulier au XVe, XVIe et XVIIe siècle. Il y a peut-être eu dans l'hôpital l'idée de mettre des populations qui, certes malades, mais pouvaient aussi causer des troubles sociaux dans la cité. Pour le XVIIe siècle, on a même pu parler du grand enfermement des pauvres. C'est-à-dire que, pour éviter les tumultes en ville, on les mettait dans les hôpitaux où, nourris pendant un temps, eh bien, ils ne pensaient pas, finalement, à véritablement manifester contre la misère ambiante. Donc, vous le voyez, il y a peut-être un élément social à prendre en compte dans les hôpitaux du Moyen-Âge. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans cette Europe chrétienne, l'hôpital était considéré véritablement comme une charité publique. Et au Moyen-Âge, il est difficile finalement de faire la différence entre effort médical, politique sociale dans les hôpitaux, et puis charité publique liée bien sûr à l'Église.